c'est bien, tu m'as créé, mais toi, tu es vraiment mieux que moi. Tu es mieux que moi à tout point de vue, Seigneur. Et ce matin, c'est ta parole que je veux apporter. C'est tes pensées que je veux apporter, Seigneur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus que ton esprit puisse prendre toute la place et m'utiliser pour la gloire de ton nom, pour que ta parole ne soit pas distillée, mais qu'elle puisse devenir vraiment, comme dit ta parole, une épée à double tranchant, une parole de vérité, une parole qui exhorte, une parole qui rassure, une parole qui donne la vie. Et je prie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Avant de commencer ce partage avec vous, ce que le Seigneur a mis sur mon cœur, je voudrais aussi rendre gloire encore sur la fidélité des frères et sœurs dans les dons, dans les offrandes, dans le soutien de cette Église. Et peut-être que j'aurai plus tard une pensée à vous apporter à ce sujet-là par rapport en plus au froid que nous avons, mais ce n'est pas le sujet de mon message, du message que tout du moins que Dieu m'a mis sur mon cœur. Mais Dieu a vraiment plein de choses en réserve pour tous. Et quand je dis pour tous, c'est pour tous. Il n'y a pas une élite et les autres, c'est faux. Donc vraiment, Seigneur, je veux te rendre gloire pour la fidélité de mes frères et sœurs dans le soutien de ton œuvre à Persan. Merci Seigneur. Vraiment, je veux que tu les bénisses, que tu les encourages dans leurs entreprises, dans leur direction avec toi, que ton nom soit sanctifié. Amen. Alors, je voudrais vous parler d'un sujet qui est extrêmement important à mon cœur, que je vous ai apporté de différentes façons, mais je n'ai pas apporté jusqu'ici en message, c'est le Saint-Esprit. Souvent, je vous tartine, pour certains, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il a, ce pasteur a toujours prié, qui réveille l'esprit de prière, que si, que ça, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? C'est que vous ayez le meilleur. Et une église qui n'a pas compris l'œuvre du Saint-Esprit est une église qui se refroidit. Si nous voulons être bouillants, si nous voulons avancer, si nous voulons voir des signes, des miracles, des prodiges, il ne peut s'opérer que par son esprit. Pas par votre pasteur, pas par un autre homme de Dieu, mais par son esprit. Et c'est bien ce sujet que je voudrais vous apporter ce matin, le Saint-Esprit. Qui est-il? Pourquoi je vous bassine tant avec cela? Et pourquoi certains se sentent des fois un peu exclus dans nos temps de prière? Parce qu'il vous manque une dimension du Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Je sais que certains, dans des temps de louange, ou même il y a des chants en langue, alors là, ils sont perdus, ils se demandent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Certains sont dans des positions où je ne comprends pas, donc ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux tout contrôler. Et pourtant, c'est ce qui a été dit ce matin par deux serviteurs, de se laisser emmener, de se laisser abandonner. Ce n'est pas une chose facile, mes frères et sœurs, je vous l'accorde. Mais c'est tellement important. Et c'est pour ça que je vais commencer brièvement par des bases, en vous disant quelques passages. Qui est le Saint-Esprit? On va commencer par des choses basiques. Est-ce que c'est quelque chose comme ça ou pas? Nous l'avons dans la Genèse où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre n'était encore informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était déjà là. La parole déclarera aussi que nous sommes faits à l'image de Dieu. Esprit, âme et corps. Beaucoup l'ont tourné dans le sens inverse, corps, âme et esprit. Mais mes frères et sœurs, c'est normal parce que nous sommes dans un monde physique. Mais en vérité, notre première nature est spirituelle. Et notre temps soi-disant physique ici est éphémère. Nous sommes esprit, âme et corps. Notre esprit, l'esprit, c'est l'esprit de vie. Vous pouvez le trouver dans Ézéchiel ou dans d'autres passages. S'il n'y a pas l'esprit, il n'y a pas de vie. Notre âme, c'est notre pensée, notre sensibilité, ce que nous aimons. Moi, je suis plus à préférer le bleu, d'autres vont préférer le rouge, le rose, etc. Je préfère la vanille, d'autres vont préférer le chocolat. Ça, c'est notre âme. Et notre corps, c'est notre moyen de locomotion qui est en plus tous différents et qui est pourtant fait à l'image de Dieu. Dans Jean 14, versets 16 à 17, nous avons un nom qui est donné à l'Esprit de Dieu, entre autres. Alors, ce matin, mes frères et sœurs, j'espère que vous avez pris vos Bibles, parce que je vais vous donner beaucoup de passages. Beaucoup de passages, parce que je ne veux pas que ce soit Vincent qui parle, je veux que ce soit Dieu qui vous parle à travers sa parole. Je vous rappelle que la parole de Dieu a été faite chair en Jésus-Christ. Donc, quand vous lisez la parole de Dieu, c'est Jésus qui vous parle. Et qu'est-ce que nous dit Jésus de la part du Saint-Esprit dans Jean 14? Dans Jean 14, 16-17, il dit « Et moi, je prierai... » Attendez, excusez-moi. Oups. Oui, je ne suis pas au bon endroit. Excusez-moi. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et moi, je prierai le Père et il vous donnera un consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit, Jésus va l'appeler le consolateur. Ça va être l'un de ces noms. Alors, je ne vais pas m'étendre trop sur ce sujet parce que ce n'est pas trop le thème, parce que je vais aller approfondir dans un domaine bien précis. Mais nous on va aussi le trouver dans Éphésiens 4:30, où on voit bien que le Saint-Esprit, Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. J'ai pris deux petits passages vite fait pour bien faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne à part entière. Dieu est Trinité comme nous sommes nous-mêmes Trinité. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Donc le Saint-Esprit est une personne à part entière et qui a une œuvre à part entière dans l'œuvre générale du royaume de Dieu. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, parce que là, sinon, ça serait une étude biblique. C'est un message. Donc je voulais juste mettre deux petites bases vite faites pour vraiment faire comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Donc, je voudrais commencer le deuxième point qui est comment la parole nous parle de lui, donc du Saint-Esprit. Alors, déjà, on va voir que Jésus, qui est devenu homme par l'action du Saint-Esprit, va avoir besoin du Saint-Esprit pour pouvoir commencer son œuvre. C'est quand même étonnant. Et pourtant, c'est bien ce qui va se passer. Dans Matthieu 3, 16, où Jean, alors Matthieu 3, 16, je vous laisserai lire, où Jean 1, verset 32-33, nous sommes au jour du baptême de Jésus. Jésus, qui est fait homme sur terre, va venir à Jean-Baptiste se faire baptiser. Et le jour de son baptême, le ciel va s'ouvrir et le Saint-Esprit va descendre sous la forme d'une colombe. Mais chose intéressante, le ministère de Jésus va commencer à ce moment-là et pas avant. pas avant. Le ministère de Jésus va commencer à 30 ans quand il va recevoir le Saint-Esprit. Moi, ça m'a toujours porté à confusion, à réflexion. Je dis, mais il est le Fils de Dieu. Pourquoi lui, il a besoin du Saint-Esprit? Mais nous voyons dans cette action le chemin que nous-mêmes nous devons prendre. Il est notre exemple. Et nous devons lui obéir en tout point dans ses voies. Beaucoup d'hommes et de femmes se sont épuisés parce qu'ils veulent faire les choses par leurs propres moyens. Mais si tu n'as pas l'esprit, la parole le déclare, si ce n'est l'esprit de Dieu qui construit la maison, vous la construisez en vain. Tu veux construire quelque chose de durable? Tu as besoin du Saint-Esprit. Nous avons Jean-Baptiste qui va en parler. Alors, on va prendre la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de passages dans Matthieu et dans les Actes des Apôtres. Donc, c'est Matthieu 3. Matthieu 3, à partir du verset 11. Donc, c'est Jean-Baptiste qui parle. D'accord? Ce n'est pas Jésus là qui parle à ce moment-là. C'est Jean-Baptiste qui annonce à ses disciples qui est-ce qu'ils doivent suivre. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc déjà, en prophétie, Jean-Baptiste dit qu'il y en a un qui est plus grand que lui. Il y aurait de quoi faire une belle étude sur Jean-Baptiste. Mais ce n'est pas mon propos ce matin. Jean-Baptiste déjà annonce la venue de celui qui va donner le Saint-Esprit, qui est en Jésus-Christ. Jésus lui-même va prophétiser dans les Actes des Apôtres à Acte 1, verset 5. Acte 1, verset 5. Je suis pas à la bonne page, ça marchera pas bien. Alléluia. Car Jésus a baptisé d'eau, mais attendez, attendez, j'ai perdu. Oui, ah oui, merci, merci. C'est bien, c'est pour voir si vous suivez. Non, je me suis trompé, pardon. Vous avez raison. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Ça, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et la chose s'accomplit, bien sûr, le jour de la Pentecôte, que vous pouvez lire dans Actes 2, de 1 à 4. Donc, je vous laisserai lire. C'est le jour de la Pentecôte. Acte 2, de 1 à 4. Donc là, c'est juste pour donner des petites bases, on va dire un peu pour poser le décor. On va faire un peu de survol biblique, les actions du Saint-Esprit, en troisième petit point, dans l'Ancien Testament. Quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament de l'action du Saint-Esprit? Alors, pareil, je vous ai pris des petits exemples assez succincts parce que après, je voudrais rentrer vraiment dans le fond du sujet. Vous pouvez, alors, j'ai pris un exemple, c'est dans Juges 11, à partir du verset 29. C'est même intéressant, on va le prendre, Juges 11, verset 29, parce qu'il y a une chose qui est très intéressante. Juges 11. Verset 29, c'est bon? Je vais pas trop vite. Vous me le dites hein, si je vais trop vite. Hein. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephthé. Je vais m'arrêter là. Fut sur Jephthé. L'Esprit de Dieu vient se poser. Et vous le retrouverez souvent dans l'Ancien Testament. L'Esprit de Dieu va reposer sur Samson. L'Esprit de Dieu va reposer sur Saül. L'Esprit de Dieu va reposer sur le prophète Intel, etc., etc. Mais vous le verrez dans, on peut lire aussi dans Exode 31,3, l'Esprit qualifie aussi. C'est intéressant, mais encore une fois, à un moment donné. Dans Exode 31, verset 3, l'Esprit qualifie les ouvriers pour réaliser des travaux. C'est quand Moïse va réaliser le temple de Dieu, le tabernacle. Et les ouvriers vont réaliser des objets que aujourd'hui, avec nos techniques modernes, on est incapable à réaliser. Étonnant de réaliser un chandelier à cette branche, le fameux chandelier que notre frère Lionel nous a parlé, où elles sont toutes reliées par un canal unique. Ben, on ne sait pas le faire. Et pourtant, à peu près 2 ou 4 000 ans avant, l'Esprit a qualifié ces hommes pour le réaliser, avec en plus des décors somptueux. Mais ils ont été qualifiés pour un temps. Et si vous lisez l'Ancien Testament, il semble que le Saint-Esprit vient et repart selon ses besoins sur telle et telle personne. Je vous fais comme je vous ai dit, c'est vraiment un très court, très simple, parce que je vais aussi être compris des enfants. Mais dans le Nouveau Testament, on peut voir la différence entre la vie sans le Saint-Esprit et la vie avec lui. Voilà. Là, je commence à rentrer réellement dans mon sujet, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes 19. Dans Actes 19, de 1 à 9. Acte 19. Acte 19 de 1 à 9. Alors je vais raconter un peu ce qui s'est passé avant. Et je vais après nous allons lire ce passage. Excusez-moi. Avant ce passage, nous avons ce frère, donc c'est un frère qui s'appelle Monsieur Apollos, qui va aller apporter la parole de Dieu à Éphèse. D'accord? Et c'est un homme qui est bercé dans la parole de Dieu et qui parle l'exactitude de la parole de Dieu. D'accord? C'est vraiment quelqu'un qui est bercé dans la parole de Dieu. Je vous laisserai, parce que là, il faut lire plusieurs passages assez longs. Mais donc, cet homme, ce frère, Apollos, est un homme qui connaît la parole de Dieu et qui l'enseigne avec exactitude. Donc, ce n'est pas un novice. D'accord? Si ce n'est qu'il ne connaît pas le Saint-Esprit. Et il va aller à Éphèse, il va prêcher dans les synagogues, il va prêcher Jésus-Christ, mais il n'a pas tout le message de Jésus-Christ. Et il va y avoir 12 personnes qui vont se convertir, qui vont commencer une petite communauté et qui va pas aller plus loin que ça. Et justement, c'est ce passage-là, dans Actes 19, de 1 à 9, sans le Saint-Esprit, le message de la croix n'a touché que 12 personnes. Mais regardez quand le Saint-Esprit va agir, ce qu'il va se passer. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, donc d'Apollos, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit comme quand vous avez cru? Quand vous avez cru, est-ce que vous avez été baptisé du Saint-Esprit? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ah? Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils leur répondirent, du baptême de Jean. Apollos ne connaissait que le baptême de Jean, qui était le baptême de reconnaître ses fautes. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui vient après lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Donc ça, ils l'ont entendu, ils l'ont accepté. Donc jusque-là, on est raccord. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Mais regardez la suite. Ah, extraordinaire. Déjà, c'est extraordinaire. Ils reçoivent le Saint-Esprit. Ensuite, Paul entra dans la synagogue et on lui parla, où il parlait librement pendant 3 mois. Il discourait sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais, comme quelqu'un restait incrédule, et l'incrédulité décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, excusez-moi, sépara les disciples et les enseigna chaque jour dans une école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans. De sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. En 2 ans, par l'Esprit de Dieu, ces 12 hommes ont impacté toute l'Asie. Ils n'ont pas impacté leur ville. 12 hommes remplis de l'Esprit de Dieu avec l'aide de Paul, en 2 ans, vont impacter l'Asie. Sans l'esprit, on reste à 12 tranquillement dans une maison, si je puis dire. 12 avec l'esprit de Dieu, ils ont impacté tout un pays. Il y a une sacrée différence quand même. C'est énorme. C'est énorme. Mais quand 12 hommes reçoivent le Saint-Esprit, c'est toute l'Asie qui est touchée, juifs et grecs. Il n'y a pas en plus de distinction. Dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. On va le prendre. La parole de Dieu, il faut vraiment la lire, la méditer, la creuser. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une puissance. Et Jésus va commencer son ministère quand il va recevoir la puissance venant de Dieu. Et je me dis, mais comment des hommes et des femmes que nous sommes pouvons dire, je n'ai pas besoin du Saint-Esprit? Si Jésus lui-même l'a attendu. C'était promis dans l'Ancien, elle s'accomplit en Jésus dans le Nouveau, et dans la Pentecôte, elle va être pour tous. Il est pour tous, il est pour tous. Dans Acte 12, non, Acte 1, de 12 à 14, ils s'attendent à ce que Jésus a promis dans la chambre haute. Les disciples, les femmes, et c'est si vous regardez dans la parole de Dieu, souvent on ne parle que des hommes. Et là, on ne parle plus des hommes. C'est hommes et femmes. Tous, d'un commun accord. On va le lire, c'est important. Dans Acte 1, de 12 à 14. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote de Judée, fils de Jacques, tous d'un commun accord, persévérèrent dans la prière et dans... Je dois avoir une faute de frappe là. Parce que moi j'ai oraison, donc à mon avis il y a un problème là. C'est quoi le mot? Parce que là j'ai une faute de frappe, excusez-moi. Ils persévérèrent donc dans la prière. Je ne peux pas lire le mot, je suis désolé, sans ma Bible, il y a un problème. Non mais le mot avant, excusez-moi. Dans la prière et dans... Moi j'ai un mot, c'est pour ça qu'il est bizarre. Bon alors d'accord. Pardon Seigneur. Donc, ils persévérèrent dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Dans la prière et supplication. Donc vous voyez comme quoi il y a... Ça dépend des versions. Moi, j'avais un mot bizarre. Ils persévérèrent. En ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères. Du nombre de personnes réunies était d'environ 120. Il dit, hommes, frères, il fallait que ces choses s'accomplissent. Ils sont 120. Ils vont se réunir et ils vont attendre. Mais ils vont attendre combien de temps? Ils ne le savent pas. Nous sommes dans une société où nous ne savons plus attendre. Mon père, je m'en souviens déjà, il en parlait à l'époque. Nous sommes la génération Omicron, la génération X ou Y, je ne sais plus quoi. On ne sait plus attendre. Tout de suite. Et on le voit très bien. De toute façon, tout le monde nous pousse à ne pas attendre. Tu viens d'acheter une maison, mais tu peux prendre un crédit personnel pour acheter ton canapé, ta télé, ton ci, ton ça. Après, tu es surendetté, mais tu as la plus belle des maisons. Mais t'as plus rien dans ton frigo parce que tu es en train de crever de faim. Et que tu en as pour 120 ans de dette. C'est peut-être rigolo, mais c'est une triste réalité de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Hein. On ne sait plus attendre. On veut tout tout de suite. Et pourtant, les disciples, les frères de Jésus, Marie, les femmes, vont se réunir, vont prier d'un commun accord, ils vont attendre la promesse de Dieu. Dites-moi, non, je ne vous demande pas, mais je vous pose juste la question, vous répondrez dans vos têtes, combien de fois vous avez attendu que Dieu agisse dans vos vies? Ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous avez essayé d'arranger l'histoire? Nous avons l'exemple, entre autres, avec mon Abraham, il avait une promesse. L'attente était longue, hein, parce que quand même, il avait plus de 100 ans, sa femme 99 ans, donc l'attente est longue. Mais ils ont essayé d'aider Dieu. Et on voit au jour d'aujourd'hui les dégâts que ça fait. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, dans nos vies, nous n'avons pas essayé d'aider Dieu à réaliser ses plans? Ou est-ce que nous avons une parole de Dieu et on se dit, d'accord, Seigneur, j'attends que tu y répondes. Et ces hommes, ces femmes, au nombre de 120, vont se réunir et vont attendre. Ils ne savent pas le jour, l'heure, la date. Ils ne savent pas. Mais ils vont tout mettre de côté et ils vont attendre ce que Dieu, par l'intermédiaire de Jésus, va s'accomplir. Alléluia. J'aime bien ça. Qu'est-ce qui me fait mon ordi? Oh, oh Seigneur. Ils vont attendre. Alléluia. Ils vont attendre. Ils attendent ce que Jésus a promis. On peut le lire aussi dans Luc 24, 49. Luc 24, 49 dit, Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous resterez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mes frères et sœurs, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, arrêtez de vous agiter. Arrêtez-vous. Faites un break et considérez vos voies. Nous sommes dans un monde qui nous agite dans tous les sens, nous fait courir dans tous les sens, nous occupe dans tous les sens. Moi, mes enfants, ils le savent très bien, j'ai une aversion horrible avec les téléphones portables. Je le subis au boulot, j'en engueule à tour de bras. Et la dernière fois, j'étais au travail, c'était la pause d'une équipe, ils étaient à quatre, disséminés sur différentes tables, et tous leur nez dans leur portable. On va me parler, oui, qu'il faut faire de la communion fraternelle. Ouais, tu me racontes quoi? Non, non, moi je t'écoute, t'inquiète. Outil tellement dangereux que d'un côté on peut voir la Bible en un clic, en un glissé. Nous sommes ou sur Facebook ou sur d'autres choses, ou sur un jeu, ou sur WhatsApp, ou je ne sais quoi d'autre. Et là Jésus te dit quoi? Attends. Attends de recevoir ce que je t'ai promis. Est-ce que Dieu vous a fait des promesses, mes frères et sœurs? Là on parle en l'occurrence du Saint-Esprit, mais est-ce que Dieu t'a dit... Est-ce qu'il a dit qu'il ne la donnerait qu'à une certaine catégorie de personnes? Non. Pour tous. Ils attendent, ils restent dans la ville jusqu'à être revêtus de la puissance d'en haut. Donc nous avons la Pentecôte dans Acte 1 à 4. Le Saint-Esprit vient comme un grand bruit, semblable à une langue de feu qui se sépare et se repose sur chacun. Mes frères et sœurs, combien de fois nous chantons « Nous sommes le temple de Dieu » Donc ça veut dire que en moi, il y a l'Esprit de Dieu. C'est ce que veut dire la parole. Et en plus, nous on est au bénéfice de ce qui va être dit dans Acte 8, de 14 à 17, où Pierre et Jean vont aller en Samarie, acte 8, de 14 à 17, où Pierre et Jean vont aller en Samarie, ça va être les premiers non-juifs à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc c'est-à-dire que là nous sommes sur un basculement complet où la gloire n'est plus qu'aux juifs, mais elle est pour tous. Dont j'en suis bénéfice parce que je ne suis point juif. Mais je suis enfant adopté de Christ. Alléluia. Comme vous tous, parce que pour tous ceux qui ont donné votre vie à Jésus, qui êtes passés par les eaux du baptême, vous appartenez à Jésus. Mais est-ce que tu as reçu l'équipement de puissance et d'autorité? Dans Actes 10, 44, on va le prendre aussi, Acte 10, 44, je vous ai dit que je vais vous faire lire la Bible aujourd'hui. Acte 10, verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous. Donc, mes frères et sœurs, le Saint-Esprit n'est pas pour une élite. Le Saint-Esprit est pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, il te manque quelque chose. Il te manque une révélation. Je me souviens très bien, et je suis d'accord avec mon frère Lionel, quand tu ouvres la Bible, est-ce que tu demandes au Saint-Esprit de t'éclairer ou tu le lis parce qu'il faut le lire parce que tu es un bon chrétien gentil? Est-ce que tu pries, Seigneur, ouvre-moi, fais-moi comprendre ta parole. Qu'est-ce que tu veux me dire? Parle-moi. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice et de jugement. Mais on va aller le voir ça. Plus tard. Parce que ça aussi, il y a un amalgame dans l'Église par rapport à cela. Mais on va voir que par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? On va lire Luc 11, mes frères et sœurs. Luc 11, à partir, j'ai une autre langue maintenant, du verset 9 à 13. Luc 11, de 9 à 13. C'est un verset connu, hein. Prends pas la bonne page, ça ne marchera pas bien. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Personnellement, moi c'est ce verset qui a fait que je suis devenu chrétien. J'ai cherché, j'ai frappé, et Dieu m'a répondu personnellement. Verset 10. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande un pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Est-ce que tu as déjà demandé de recevoir le Saint-Esprit? C'est une question. C'est certain qui disent, ah, j'ai pas reçu le Saint-Esprit, mais est-ce que tu l'as demandé? Est-ce que tu l'as cherché? Ou ça ne t'intéresse pas? T'en vois pas l'utilité? Ça peut être une raison. Moi, je sais que certains me disent, je vais le redire, ils disent, oui, mais quand vous priez en langue, on ne comprend pas ce que vous dites, et vu que moi, quand je ne comprends pas, j'aime pas trop, donc du coup, je ne prie pas en langue. Ça, c'est un esprit de contrôle. Tu veux tout contrôler dans ta vie. Et tu as peur de t'abandonner en Christ. Et pourtant, il y a tellement de bénédictions derrière. Est-ce que tu demandes? Est-ce que vous cherchez le Saint-Esprit? Et c'est assez amusant parce que quand vous lisez différents livres, des fois de grands hommes de Dieu, ils les ont eu dans des endroits pas possibles. Il y en a un qui l'a eu dans les toilettes, l'autre c'était dans le bus, d'autres c'était. Mais il cherchait Dieu. Il cherchait. Il voulait recevoir. C'est marqué dans ta parole. Je veux recevoir ton esprit. Alors il y a ceux qui l'ont eu tout de suite dans l'église, puis il y a ceux que c'était dans leur lit, etc., etc. C'est un esprit de vie, de révélation. Et en plus. On en parle dans Marc 16, 17. Les signes qui accompagnent ceux qui seront baptisés. Marc 16, 17. Marc 16, 17 dit: Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Et on peut dire Amen, parce que c'est une vérité. Moi, je me souviens de celui qui avait prêché à mon mariage, qui est maintenant est retourné auprès de notre Sauveur. Il était missionnaire en Afrique et il avait vraiment envie d'un plat de lentilles, de haricots rouges. C'était des haricots rouges. Et il arrive dans ce village où on leur propose un plat de haricots rouges. Et là, il fait, Ah, Seigneur, tu es bon, tu as répondu. Il se sert et on lui dit, Est-ce que vous en voulez encore? Vas-y! Ce n'était pas des haricots rouges, c'était du poison. Fait par le sorcier du village. Ils sont partis, on leur a mis une case à disposition et allez vous coucher. Allez. Ils ont été se coucher, ils ont rendu gloire à Dieu. Ils ont été se coucher. Et le matin, ils se sont levés. Tout le village a été converti. Parce que le sorcier savait ce qu'il avait fait. Et tout le village le savait. Mais quand ils se sont levés, en pleine forme, l'action de Dieu s'était accomplie. Alléluia. Quand vous rendez gloire à Dieu pour le repas que vous avez à table, moi je me souviens, j'avais une période où je me disais, oh mais nous on est en France, on est bien. Puis il y a quelque chose qui me dit, non, non, il faut que tu rendes gloire de ce que tu as dans ton assiette. Et quelques mois plus tard, la crise de la vache folle éclate. Nous ne savons pas ce qui se passe. Mais Dieu sait toutes choses et Dieu sait nous garder de toutes choses. Quand Saint-Esprit te dit, ne prends pas ça, ne le prends pas. Il y a tant d'histoires comme ça où Dieu nous parle par son esprit. Et si on l'écoute, mais c'est extraordinaire. Combien de fois j'ai gardé des choses dans la maison et je fais, stop, Seigneur, j'ai besoin de toi. Puis il me dit, va aller là, un lieu improbable, ben, c'est là. L'Esprit de Dieu est avec nous, dans les grands comme dans les petites choses. Donc là, je voudrais venir sur une chose qui crée des divisions dans l'Église, où des frères et sœurs disent, voilà, je me suis converti, le Saint-Esprit m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, donc j'ai le Saint-Esprit. Ben, c'est faux. Le Saint-Esprit t'a convaincu, il est avec toi, mais il n'est pas en toi. On peut lire dans Jean 18, 8. Jean 18, 8. Jean 17, Jean 16, 8, excusez-moi, je me suis trompé. Jean 16, 8, je vous demande pardon. Donc on parle toujours du Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché et la justice et le jugement. Donc là, on a l'Esprit de Dieu qui vient et qui convainc de justice et de jugement. On est dans la position de l'Ancien Testament où le Saint-Esprit vient, se pose sur toi et te parle. Tu acceptes Jésus, mais il te manque un élément essentiel, c'est d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est la différence entre être touché par le Saint-Esprit et être baptisé du Saint-Esprit. Je peux reprendre l'image qu'a donnée le Seigneur il y a quelques instants. Tu marches au bord de la piscine, tu as les éclaboussures de la piscine. Tu vois la piscine, mais tu n'es pas dans la piscine. Tu peux être le voisin d'une famille extraordinaire, tu les vois, tu les côtoies, mais tu ne fais pas partie de la famille. Pourtant, tu as eu le droit à des invitations, tu as eu le droit à des cadeaux de leur part, mais tu ne fais pas partie de la famille. Et pour bien comprendre cet exemple, parce que là je sais qu'il y a un peu de trouble à ce niveau-là, je voudrais éclaircir en utilisant la parole de Dieu. Il y a quelle qui est la vérité. Alors je vais utiliser Matthieu 16, du verset 13 à 16. Matthieu 16, 13 à 16. Elle dit, 16. Comme ça, c'est pas moi qui parle, c'est Dieu lui-même. Ça faisait quelque chose, vous verrez ça avec lui. Donc, Matthieu 16, 13 à 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, et l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc on va, et là, Jésus va dire, Jésus reprend les paroles et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui l'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est bien le Saint-Esprit, parce que Dieu n'est pas descendu pour le dire à Pierre, hein, c'est bien le Saint-Esprit qui est venu pour convaincre Pierre que Jésus est le Messie. Et pourtant, pourquoi Pierre va attendre la Pentecôte pour commencer son ministère? Dites-moi, pourquoi dans ce cas-là, vu que Pierre a reçu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu, va attendre le jour de la Pentecôte pour commencer à faire son ministère? Donc, je reviens, ce n'est pas parce que tu as été convaincu de justice et de jugement que tu as le Saint-Esprit, mais que tu as besoin de recevoir l'Esprit de Dieu, l'Esprit de puissance, pour que tu puisses faire l'œuvre de Dieu. Si tu crois que par tes propres forces tu vas y arriver, tu vas te fatiguer. Et l'ennemi est extrêmement fort pour cela. Il a un sacré CV. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a attendu le Saint-Esprit pour commencer. Si nous voulons que cette église grandisse, si nous voulons voir les miracles, les prodiges dans cette église, mais que nous n'attendons pas, que nous ne cherchons pas le Saint-Esprit, pour qu'il nous révèle sa parole, pour qu'il nous révèle ses plans, pour qu'il nous révèle ce que nous devons faire, pour que les uns et les autres, nous puissions commencer à faire ce que Dieu nous demande. Nous construisons la maison de Dieu en vain. Et nous allons tous nous épuiser. Et l'esprit qui est contre Dieu va nous monter les uns contre les autres. Voilà la réalité de la parole. Mais ça t'impacte toi personnellement à chercher, à demander, à le réclamer, de dire, il est écrit, je veux recevoir ce que tu as dit, ce que tu as promis. Je vais conclure et je vais demander aux musiciens de revenir, de jouer tout doucement, s'il vous plaît. Un sonia, une chose comme ça. Dans Jean 14, de 16 à 17, Jean 14, de 16 à 17, Jésus dit, et moi je prierai le Père et je vous donnerai un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaisse point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera avec vous. Il y a des promesses dans la parole de Dieu que Dieu veut agir. Dieu veut aller avec vous. Nous l'aurons même dans le prophète Joël ou dans l'acte des apôtres. Le prophète Joël le dira dans le chapitre 2 au verset 28, qui est exactement le même dans acte 2, 17. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Voici vos fils et vos filles prophétiseront. Les vieillards auront des songes. Ce n'est pas une option. Je voudrais que vous compreniez bien cela. Ce n'est pas une option pour un chrétien que de recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va révéler aussi dans vos vies ce qui empêche l'action de Dieu de se réaliser dans vos vies. Si le Saint-Esprit ne te parle pas, si tu ne l'écoutes pas, tu vas t'épuiser en prière, tu vas t'épuiser. Je vous encourage vivement à lire le livre de Papa Jean, qui est très intéressant à ce niveau-là, où il applique la parole de Dieu et souvent il fait mouche, le Saint-Esprit lui fait faire mouche dans un domaine précis où la personne retient. Mais ce qu'elle retient empêche la bénédiction de Dieu de s'accomplir. Veux-tu vivre dans la bénédiction? Veux-tu vivre les bénédictions de Dieu dans ta vie? Ça dépend de toi. Dieu, lui, il veut que tu sois béni. Dieu veut être avec toi jusqu'à la fin des temps. Mais cela dépend de toi, mon frère. Ça dépend de toi, ma sœur. Vous pouvez lire dans Actes 2, 33. Il l'a promis qu'il veut vous le donner. Il l'a promis. Et je finirai sur 1 Corinthiens 12, verset 3. 1 Corinthiens 12, verset 3. Nous dit, et ça c'est important mes frères et sœurs, parce que ça c'est contre l'église numérique. 1 Corinthiens 12, verset 3 nous dit, c'est pourquoi je vous le déclare, que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dise « Je suis anathème » et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est le Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Esprit, mes frères et sœurs, qui est tous en tous. Il est le ciment, il est celui qui fait que nous devenons le corps de Christ. L'église numérique, moi je l'ai remarqué dans différents sites, quand ils sont passés au numérique, l'Esprit de Dieu s'est moins manifesté. Par contre, quand l'église se rassemble, quand l'église cherche Dieu, Dieu parle, Dieu guérit, Dieu exhorte, Dieu aime. Elle est là, la communion fraternelle. La Bible déclare de considérer l'autre plus important que soi. D'aime ton prochain comme toi-même. De porter l'autre dans la présence de Dieu. De chercher la présence de Dieu parce que notre frère est à l'hôpital. Mais de chercher la présence de Dieu pour tel ou tel problème dans notre église. Parce que nos frères et sœurs souffrent. Combien au jour d'aujourd'hui vous souffrez et que vous n'avez pas de réponse? Mais pose-toi la question, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il est venu en toi? Est-ce qu'il t'a lavé? Est-ce que tu as reçu cette puissance qui va révéler ton péché? Qui va révéler que là? Et quand tu dis, oh oui, oui, je suis alcoolique, je ne m'en sors pas. Mais Dieu, il va venir, dire, mais viens mon enfant, je vais te libérer de ce problème. Oui, moi je fume, mais j'ai la solution pour ta vie. J'ai des problèmes, je joue à des jeux à gratter ou faire des jeux en ligne, mais j'ai la solution pour toi. Mais viens à moi, je t'aime, j'ai envoyé Jésus-Christ. Il nous a montré le chemin. Il t'aime. Et combien de fois tu restes, je reste, nous restons campés sur nos positions. Combien de fois nous attristons le cœur de Dieu? Combien de fois nous résistons à son esprit qui nous parle? Est-ce que nous allons continuer à jouer les petits chrétiens mignons? Ou nous allons chercher la présence de Dieu et dire, Seigneur, viens me toucher. Viens révéler ce qui ne te plaît pas dans ma vie. Je veux me conformer à ta parole. Il y a plein de choses que je n'y arrive pas. Mais je veux le vivre parce que je sais qu'il y a des réalités puissantes derrière cela. Mais je ne peux pas sans le médiateur. Le seul médiateur, c'est Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Le seul médiateur, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc de justice et de jugement. Pas une fois, mais tous les jours, à chaque instant. Quand tu vas regarder quelque chose que tu ne dois pas regarder à la télé. Quand tu vas convoiter quelque chose que tu ne dois pas convoiter. Quand tes yeux vont se porter sur quelque chose qu'il ne faut pas. Le Saint-Esprit va dire, ne fais pas ça. Est-ce que tu vas résister à sa parole? Ou est-ce que tu vas dire, oh merci Seigneur, tu prends soin de moi, tu m'aimes. Tu m'aimes. Oh Seigneur, que nous puissions construire le temple de Dieu, que ce lieu devienne un lieu d'amour, où il n'y a pas de reproche, que nous puissions mettre, Seigneur, tu es marqué dans ta parole, oui, que mes paroles soient empreintes de douceur et d'amour, j'y arrive pas, aide-moi, je veux vivre ta parole, mais j'y arriverai pas par moi-même. Je veux vivre ce que tu dis. Mais combien de fois je rate? Combien de fois je dois revenir au pied de la croix pour lui demander pardon? Combien de fois je manque d'amour pour mes frères et sœurs? Combien de fois, Seigneur? Là, on va se réveiller parce qu'on a un frère qui est blessé. Mais pourquoi on ne se réunit pas pour prier pour les uns et les autres? Qu'on ait cette envie, que nos bien-aimés soient dans la bonne santé, dans la réussite, dans la présence de Dieu. Je sais qu'il y a tant de souffrances. Mais Dieu a la solution pour toi. Il a la solution pour toi. Mais est-ce que tu la veux? Est-ce que tu veux te laisser toucher par lui? Est-ce que tu veux recevoir de lui? Est-ce que tu veux que ta vie change? Est-ce que tu veux dépasser ce cap? Est-ce que tu veux arriver à donner tes finances, tes jeux, tes placards de fringues qui débordent de partout? Ton temps gaspillé. Oh Seigneur. Comment je peux vivre Jean 14, 24. Vous voyez, j'ai des petites cartes que j'emporte. Jean 14, 24. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je veux le vivre. Moi, je veux vivre une relation réelle, pas éphémère, de vérité avec mes frères et sœurs, avec mon épouse, avec mes enfants. Oh Seigneur, oh Seigneur, tu es trop important. On se fait, excusez-moi mes frères et sœurs, mais on se fait avoir, on se fait voler. Tu te fais voler la gloire de Dieu. Tu te fais voler des victoires dans ta vie. Tu te fais voler tes finances. Tu te fais voler ta joie. Tu te fais voler ton espérance. Oh Seigneur, oh Seigneur, Dieu a tant de choses pour vous mes frères et sœurs, mais vas-tu ouvrir ton cœur, vas-tu recevoir ce que Dieu a promis de tout temps de t'envoyer ce matin? Désire-le, cherche-le, chéris-le cet instant où Dieu va venir, il va te remplir de feu, de puissance et d'esprit. Pour que nous puissions pas être que deux à prophétiser, mais une multitude. D'avoir des visions, des directions. Et que toutes ces visions, ces paroles puissent être examinées à la lumière de sa parole. Ça, c'est ce qui est écrit. Et ça, c'est vérité. Ce n'est pas pour une élite, c'est pour tous. C'est pour tous. Alléluia. Mes frères et sœurs, j'invite mes frères et sœurs qui veulent recevoir cet esprit. Pour les autres, baissez la tête. Moi aussi, je vais fermer les yeux. Mais lève la main. Et je veux prier pour toi. Oh,
Esprit de Dieu, Esprit de vie, viens en ce lieu. Ce ne sont pas que des mots que j'ai prononcés. C'est une vérité éternelle que j'ai proclamée. Que tu veux toucher. Que tu veux emmener. Que tu veux faire comprendre. Que tu veux changer. Que tu veux emmener tes enfants bien au-delà de ce qu'ils imaginent. Saint-Esprit, je t'appelle. Viens en ce lieu. Viens toucher les cœurs, les âmes et les esprits. Mais ce n'est pas réservé qu'aux grands. Les enfants, c'est aussi pour vous. Je sais que certains ont commencé à prophétiser à l'âge de 4 ans. Donc les enfants, c'est pour vous aussi ce matin. C'est pour toutes les générations. Il n'y a pas de limite à l'œuvre de Dieu. Hallelujah. Esprit de Dieu, viens, je t'appelle, fais de moi le temple de Dieu, embrase mon cœur, mon âme et mes pensées, rends-moi bouillant pour ta gloire, me crois pas être juste aux yeux des hommes, mais je veux être juste à tes yeux, je veux voir ta gloire s'accomplir dans ma vie, dans ma famille, dans mon épouse, dans ton église. Seigneur, viens Esprit de Dieu, viens Esprit de vie, de révélation et de puissance. Embrasse tes enfants dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit glorifié Dieu. Béni soit ton nom. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia,
Alléluia,
ô Saint-Esprit, nous t'attendons.